Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Art plastique. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Joséphine Dumoulin et Boris Pinault. À la prise de son ce soir, Élise Le. Réalisation Alexandre Fougeron. Autour de moi ce soir, Corinne Rondeau, Sally Bonne et Stéphane Coréard pour parler ensemble de Hammershøi, le maître de la peinture danoise. Exposition à voir jusqu'au 22 juillet au musée Jacques Marandré. Nous parlerons également du printemps algérien. C'est un cycle d'exposition à la piscine de Roubaix. Et nous parlerons plus particulièrement de la rétrospective Gustave Guillaumet. Il y aura un coup de cœur de Sally Bonne pour exposition Geste jusqu'au 31 mars au CNEAI, CNEAI, comme si on a envie de le dire comme ça. Mais pour se trouver, c'est mieux de dire CNEAI pour que nos auditeurs et auditrices s'y retrouvent. Le petit salon de Lucille Como sera consacré aux fonds régionaux d'art contemporain. Et puis en fin d'émission, nous ferons gagner des cadeaux grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour le film Sunset de Laszlo Nemes qui est sorti aujourd'hui sur les écrans et dont nous parlerons vendredi dans la dispute. Et nous ouvrons donc cette émission avec Hammershøi, le maître de la peinture danoise. Musée Jacques Marandré, les commissaires sont Jean-Loup Champion et Pierre Curie avec une scénographie d'Hugues Le Gall. On se souvient peut-être, pour les plus anciens, des expositions du Petit Palais, c'était en 1987, d'Orsay en 1997. Mais donc depuis 22 ans, on n'avait pas eu l'occasion de voir un tel ensemble réuni d'œuvres de Wilhelm Hammershøi, né à Copenhague en 1864, mort dans la même ville en 1916. Je ne sais pas s'il aurait répondu au bonheur de vivre au Danemark à cette époque-là. Je ne sais pas si c'était le pays le plus heureux du monde. Il est venu deux fois à Paris pour les expositions universelles de 1889 et de 1900, mais il a fait quelques autres voyages, en Italie notamment, mais il est surtout, nous dit-on, resté cloîtré chez lui, entouré de sa famille, de quelques rares amis, un petit cercle qui, on va le voir, est devenu le modèle de ses tableaux. Dans ses tableaux, on voit souvent les intérieurs, une très belle décoration, mais les intérieurs sont parfois désertés, parfois il y a une silhouette, souvent féminine, des présences qui sont plutôt mystérieuses, en tout cas totalement hors des courants de son époque. Hammershøi a tracé une ligne, un parcours tout à fait singulier à redécouvrir aujourd'hui. Hammershøi, au musée Jacques Marandré. Alors, comme j'ai vu sur un réseau social représenté par un petit oiseau bleu que Stéphane Coréard s'est enflammé pour cette exposition, j'avais envie de commencer par cette parole positive. Stéphane Coréard, que découvre-t-on en entrant dans le musée Jacques Marandré?
Vous avez raison, Arnaud, c'est si rare que je m'enflamme. Pour des Danois.
Positivement.
Pour des Danois.
Ne commencez pas.
Non, pas du tout.
On va sortir un jingle humour quand Stéphane Coréard parle.
Effectivement, vous l'avez dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de tableau d'Hammershøi en France. En plus, il a passé la partie du XXe siècle relativement occultée, donc c'est pas forcément une œuvre que dont on est familier. Vous l'avez dit, c'est des tableaux teints, souvent de quand même, donc tableaux de petit format, dans des camaïeux de gris. C'est très discret. Beaucoup de tableaux qui finalement, on le découvre dans l'exposition, recouvrent beaucoup de genres différents, des paysages, des nus, des portraits. Mais c'est évidemment pour ces intérieurs que Merchoy est passé à la postérité, qui sont les deux dernières salles absolument éblouissantes de l'exposition. Mais l'ensemble de l'exposition, je trouve, mérite qu'on s'y attarde avant ce feu d'artifice, si je puis dire, pour des tableaux teints gris de la fin, puisque chaque salle, je trouve effectivement que l'exposition est très bien organisée, fournit une pièce du puzzle à Merchoy de cette énigme, un peu que c'était cet artiste décédé à 52 ans et qui est resté finalement chez lui. Il suivait peut-être le précepte de Pascal, vous savez, qui disait tout le malheur de l'homme vient que de ce qu'il ne sait pas rester au repos dans sa chambre. Et à Merchoy, vous l'avez dit, souvent peint ses intérieurs qui sont les intérieurs où il a habité. Il a d'ailleurs beaucoup déménagé, contrairement à ce qu'on pense, puisqu'il aimait toujours les mêmes types d'appartements anciens avec le même mobilier. Mais très vite, au début il a eu un atelier, mais très vite il a peint chez lui, et donc il peignait chez lui effectivement, c'est-à-dire en étant chez lui, mais il peignait aussi chez lui, son intérieur, et sa femme, Ida, parfois, de nu ou occupée à une tâche domestique, toujours absorbée, jamais ne regardant jamais le spectateur. Le parcours de l'exposition, il y a 8 salles, petites, toujours chez Jacques Marandré, mais là c'est spécialement bien proportionné, évidemment avec les tableaux d'Amerchoy. La première s'appelle Amerchoy et les siens, et on découvre effectivement un artiste qui, comme Knopf, dont on a parlé ici il y a pas très longtemps, est centré sur sa famille, son foyer, très proche de sa mère, qui fait des scrapbooks qu'on ne voit pas dans l'exposition, mais qu'on voit dans le catalogue, où elle collecte toutes les coupure de presse sur lui, etc. Et son premier tableau, finalement, qui est exposé à 21 ans, un portrait d'une jeune fille, fait déjà scandale. Pourtant, c'est un tableau relativement sage, mais justement à cause de cette sagesse, c'est-à-dire qu'il est très dépouillé. Il n'y a aucun ornement. Cette jeune fille est sur un fond monochrome. Elle est légèrement penchée dans une attitude un peu déséquilibrée. Et ce tableau n'a pas le prix de l'exposition. Et c'est un premier scandale, parce que les autres peintres se mobilisent pour Amerchoy. Il participera, cet épisode participera à la création de l'équivalent du Salon des indépendants danois. Tout de suite viennent les premiers intérieurs. La salle est sous-titrée une empreinte personnelle, et effectivement on voit que donc dès le départ de son travail, il y a cette fascination pour l'intérieur, et notamment il y a plus de deux portraits, je crois, de la mère d'Amerchoy, qui là aussi rappelle Knopf et ce tableau en écoutant Schumann dont on avait parlé, sa mère toute seule, là aussi dans cet intérieur très vide, et avec c'est très beau, il y a deux petits cadres, on ne sait pas si je pense que c'est des miroirs peut-être ronds, qui sont de part et d'autre du visage, et on est déjà plongé dans un mystère, le mystère du quotidien, un mystère de cette domesticité baignée d'une lumière étrange.
Et on poursuit la visite avec Sally Bone.
Ouais, alors la visite, elle se poursuit par une troisième salle qui s'intitule Entre rêve et réalité sur le paysage. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que d'Amerchoy, on connaissait essentiellement les intérieurs, ses intérieurs vides, ses figures de dos, ses gestes quotidiens, une certaine forme de radicalité de la peinture. Et on découvre dès la troisième salle et puis dans les suivantes, à la fois son traitement du paysage qui se distingue immédiatement comme les intérieurs, avec cette espèce d'ambiance un peu brumeuse et avec cette capacité qu'il a de s'extraire d'un travail de détail au profit de grands aplats où tout d'un coup le ciel et la terre se rencontrent et on a l'impression de masses comme ça qui se, enfin de masses quasi d'espèces de formes tectoniques de la terre qui vient rencontrer le ciel, les paysages sont très beaux, et on poursuit ensuite sur des paysages citadins, et là c'est sous-titré Le temps suspendu, et là effectivement on a d'ailleurs deux tableaux qui représentent la même église de Copenhague, qui sont traités un petit peu différemment, mais pas tout à fait du même point de vue, mais avec cette même volonté de représenter l'église en tant que telle, et en même temps dépouillée, parce que c'est aussi un terme qui s'impose pour la peinture d'Amerchoy, avec un travail de retrait du détail, et ce qui est très intéressant et très singulier sur ce qu'on remarque d'ailleurs dans ces paysages citadins avec ce temps suspendu, c'est que le traitement en fait de la peinture d'Amerchoy apparaît là nettement, c'est-à-dire que ce qui apparaît comme des grands aplats, donc les murs de l'église, le toit en fait d'une partie de l'église, si on se penche un petit peu sur le côté, c'est une multitude de couches, et c'est très intéressant de voir ce rapport entre les aplats et la multiplicité des couches et l'épaisseur de la peinture effectivement. On poursuit après avec une salle sur le nu. et qui est sans doute ce qu'on connaissait le moins bien d'Hammershøi, avec des espèces de sensualité très froide, alors là, vraiment très froide, parce que les nus sont presque, enfin les corps sont presque blancs, et puis se fondent en fait dans le mur qui est lui-même gris blanc. Et puis ensuite, la salle suivante est appelée l'art de l'épure, évidemment pas pour rien, puisque en fait Hammershøi continue en fait à dépouiller la peinture, à dépouiller son geste au profit de cette intériorité qui travaille vraiment sur une qualité de l'atmosphère aussi.
Et on continue avec Corinne Rondeau.
Ah mais je reprends alors. Ouais. Non, c'est vraiment l'art de montrer le cachet à Hammershøi. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est capable, au-delà du mot de dépouillement, qui est un qualificatif assez rapide qu'on peut mettre sur sa peinture, il y a quelque chose d'assez immédiat aussi dans ce petit parcours qui est, je dirais qu'il est fait comme on taille un diamant, parce que je trouve qu'il est très bien fait. On a très peu d'artistes, il y a deux tableaux d'autres artistes qui sont là, donc on est vraiment avec Hammershøi et dans Hammershøi. Donc il faut reconnaître là qu'on est chez Jacques-Marandré en toute grande qualité, je dirais. Hammershøi, c'est vraiment celui. La première salle vous le dit tout de suite. Vous avez un grand tableau qui devait être son chef-d'œuvre, qui est un tableau sombre, très sombre, de nuit, avec une lumière. C'est le 5 portraits. Ce sont ses amis, historiens, architectes, et puis le peintre aussi, Karl Holse, je ne sais pas si je prononce bien, qu'on retrouve à la fin avec un motif assez semblable de porte, de fenêtre et de porte fermée. Pour voir la différence, on ne voit rien derrière la fenêtre de Hammershøi, on voit un jardin derrière celle de Holse. C'est un grand tableau, très sombre, et à côté vous avez un tableau qui est de trois jeunes femmes, qui est blanc. Lumière, obscurité. Et tout le travail d'Hammershøi est sur un rapport de travail sur la lumière et les ombres. C'est permanent, et c'est la raison pour laquelle moi je trouve que c'est cette manière de montrer en cachant tout le temps. Pas simplement parce qu'il y a des portraits de dos, pas simplement parce que les personnages sont isolés ou il n'y a pas d'interaction. On a l'impression qu'ils sont posés les uns à côté des autres sans avoir à se parler. Il y a vraiment, c'est le peintre de l'intériorité, on pourra dire, parce que c'est une manière de vouloir rentrer dans une peinture qui n'a pas de profondeur. Et les paysages, il suffirait que tu souffles dessus pour que la peinture s'en aille. C'est une surface assez maigre. Il n'y a pas d'épaisseur, en fait, dans cette peinture. Il y a des coups de pinceau, beaucoup, mais il n'y a pas d'épaisseur. C'est une palette très pauvre, hein, plutôt tirant vers le gris, justement, même s'il y a il y a quelques coloris. Il suffirait de souffler dessus pour retrouver la surface, que la toile retrouve sa surface vierge. C'est absolument somptueux d'élégance, de légèreté, presque de frugalité, d'où ce mot de dépouillement. Mais c'est vraiment la caractéristique d'un tableau qui, chaque fois qu'il est proche, est toujours loin de vous. Donc, il peint le proche le plus lointain. Et ces lointains n'arrêtent pas de revenir sans arrêt, mais il ne démontre jamais l'infini. C'est vraiment la contrepartie de cette phrase de Thomas Mann que j'aime beaucoup dans cette nouvelle de la déception. Le personnage raconte, il dit au narrateur: je rêvais d'infini, nous n'avons qu'un horizon. On va dire qu'Hammershøi, c'est celui qui dit: je sais qu'il y a un horizon, mais je sais aussi que je peux cacher l'horizon, parce que la vision, ce n'est jamais tout voir. Et c'est ça qui est admirable chez Hammershøi, c'est qu'avec rien, il montre dans la lumière, parce qu'on est quand même dans le nord, on passe quand même beaucoup de temps dans l'obscurité, ou dans des journées très courtes, on voit tout le passage de la lumière. D'ailleurs, ce qu'on voit vers la fin, qui va vers plutôt de l'abstraction de ses intérieurs avec la lumière, quand on regarde chronologiquement un peu, on a des mêmes pièces où le rayon de lumière passe de 1900 à 1903, par exemple. Il n'y a pas tout, il faut acheter le catalogue aussi pour voir ce passage. Mais il y a un tableau aussi qui est absolument admirable. C'est une femme à la fenêtre. Elle est au bord de la fenêtre. Derrière elle, c'est l'obscurité totale et elle attire toute la lumière. Et ces femmes de dos, et quand il veut tout vous montrer comme un nu, le grand nu, c'est un nu de gris où le rose est noyé dedans. Et en fait, quand il vous montre tout, il vous montre quelque chose qui ne vous donne pas envie d'y aller. Il vous met toujours, et c'est le peintre de la distance. C'est admirable.
Stéphane Corrière, à nouveau.
Oui, absolument, la lumière, et c'est frappant dans les deux dernières salles qui sont à mon avis peut-être les meilleurs mètres carrés de peinture qu'on puisse voir à Paris actuellement, et peut-être pour un moment. Moi j'ai failli m'évanouir devant la beauté de ces tableaux, donc les intérieurs où où on voit sa femme de dos. Elle est résumée à une silhouette, mais en même temps, la blancheur de sa nuque est très intense. Et un nuage vaporeux de sa chevelure qui n'est pas faite, puisqu'on est dans l'intérieur, elle n'est pas coiffée. Il y a cette chose extrêmement intime et effectivement, en même temps, d'une grande radicalité. La dernière salle, qui est consacrée uniquement à des intérieurs totalement vides de toute présence, est absolument saisissante. Ces lieux sont géométrisés à l'extrême. Il n'y a plus que des parallépipèdes. Tout est parallépipédique. Les encadrements de portes, de fenêtres, les carreaux des fenêtres, les moulures des portes, les tapis rayés, les cadres au mur. On se croirait dans un Mondrian, mais Mondrian sourd. C'est extraordinaire. C'est on pense même à des artistes minimaux comme Alan Charlton. Enfin, c'est de cet ordre d'intensité. Et effectivement, la seule présence extérieure, c'est celle de la lumière qui rentre, et il peint cette chose qui est fugace, c'est juste les rayons de soleil qui passent à travers la fenêtre et qui rasent les murs ou les parquets. On a beaucoup dit, on résume souvent à Mercheuil au fait que ce soit un Vermeer du XXe siècle. Ce qui n'est pas faux en termes de qualité, parce que franchement, il y a des tableaux qui sont de ce niveau de qualité de peinture. D'ailleurs, dans le catalogue, il y a un très bel article du co-commissaire Pierre Curie qui détaille quelques antécédents hollandais de l'art de Hammershøi, qui est très intéressant et qui montre qu'il y a une tradition de ces intérieurs. Mais en fait, on pourrait aussi dire que c'est le Edward Hopper ou le Morandi du 19e siècle. En fait, c'est une peinture sans âge. C'est un peintre anti-moderne. D'ailleurs, on a quelques témoignages, il a visité, puisqu'il a effectivement voyagé, des expositions impressionnistes, et il dit la plupart des tableaux ressemblent à des plaisanteries. et s'il y a des échos du symbolisme ou des pré-raphaélites parfois dans son travail, ça reste étouffé, confiné. De loin. Et en même temps, ce cheminement très radical vers une forme de géométrie extrême, vers une forme de minimalisme, de monochromie, le rend totalement intemporel. En fait, il n'est pas anti-moderne, c'est un peintre totalement intemporel. Et d'ailleurs, j'ai noté cette phrase de Rainer Maria Rilke qui dit « Son œuvre est lente et de longue durée et quiconque l'étudie trouvera toujours l'occasion de dire ce qu'il y a d'important, d'essentiel dans l'art. »
Bon. Rilke, Mann, un partout, Corinne Rondeau, et avant Sally Bonne à nouveau.
Non, mais pour revenir sur ce mot d'évanouissement, c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose de l'évanouissement qui est peint chez Hammershøi. Vous avez le paysage, la vue de Refneus, c'est un paysage. Vous avez un bord de mer et vers le bord gauche du tableau, vous avez la dune se décline. Il y a un creux comme ça, c'est somptueux. Et en fait, vous avez juste envie effectivement de vous évanouir dans ce creux, ce bord gauche, comme un mouvement où vous roulez, le regard n'a plus rien à faire, c'est un évanouissement du regard, et quand vous le regardez, c'est les paysages sont sensuels, contrairement aux nus. Et cette ligne qui s'évanouit, elle se trouve aussi sur le détail des tabliers de dos, sur le bord gauche encore, vous avez une traînée de blanc comme ça qui longe la robe noire et qui s'évanouit dans le noir. Donc c'est vraiment le peintre de l'évanouissement. Et je ferai juste une citation de Hans Rosenhagen, narrateur dans ses images, c'est la lumière qui, douce et grise, emplit la chambre et dit un millier de mots sur ce mur nu.
Alors, les bonne. Murs nus, en effet. Alors cette géométrisation dont parlait Stéphane, effectivement, elle a quelque chose qui me semble manifeste et assez radical en fait à mesure qu'on évolue dans les salles, et notamment avec cette idée que ce qui apparaît dans ces intérieurs qui sont effectivement suspendus, c'est à la fois un souci très particulier de l'emplacement des choses. Et il y a un tableau absolument magnifique dans l'une des deux dernières salles qui est un intérieur avec une femme de dos qui date de 1898. C'est sa femme Ida, qui est, elle a la nuque penchée, elle a les bras un petit peu écartés, on voit effectivement ses cheveux. Derrière elle, c'est-à-dire devant nous au premier plan, il y a une table avec une nappe qu'on a l'impression qu'on vient juste de la déplier, et sa blancheur est très étonnante. On voit encore les plis de la nappe, et elle se tient, elle, entre cette nappe qui prend toute la lumière et un mur complètement nu avec à gauche un miroir qui est quasiment opaque. Et c'est très singulier parce qu'il y a aussi cette dimension, et il y a quelque chose d'assez intéressant dans l'ensemble de l'exposition sur quelque chose qui serait un regard photographique en fait d'Hammershøi, et notamment le rapport qu'il a avec la photographie dont on voit quelques images dans l'exposition mais aussi dans le catalogue, et qui montre d'ailleurs les intérieurs. On parlait de dépouillement et de dénuement. Il se trouve que le geste d'Hammershøi, c'est aussi d'enlever, de retirer des choses. Et Il peignait chez lui, et cette intériorité-là et cette intimité qu'il montre, c'est évidemment ce qu'on voit. Et en même temps, il travaille aussi à enlever des choses. On le voit dans son appartement, on le voit dans son canapé qu'on retrouve dans les tableaux, on voit sa table, on voit sa femme. Et en même temps, il enlève des éléments de son paysage intérieur, et c'est très beau. Et une dernière chose peut-être, parce que il y a aussi cette, cet effet de suspens qui est très fort et très prégnant. Et au fond, cette atmosphère un peu étrange ou brumeuse, et cette qualité de lumière qu'il donne à sa peinture, c'est aussi cette espèce de capacité qu'il a à représenter, en fait, l'air et la lumière. C'est-à-dire qu'il représente l'épaisseur du réel dans lequel on se trouve et l'épaisseur de cette intériorité. Et c'est ça qui est absolument magnifique. Juste un dernier point.
Encore un dernier mot après le dernier mot, vous ne le ferez plus, ça, ça les bonnes, hein, je vous préviens.
C'est la dernière fois. Mais il y avait, il y a eu effectivement les deux expositions en 87 et 97. Il y a peut-être un effet aussi de rebondissement, mais il y a eu une exposition absolument magnifique qui était au, à Barcelone, au centre, je ne me souviens plus exactement de l'endroit, c'est au centre culturel, en 2007, et qui mettait en relation Hammershøi avec son contemporain, enfin oui, son quasi-contemporain, mais surtout compatriote, Karl Dreyer. Et c'était magnifique. Et qui rendait en fait, qui rendait à Hammershøi aussi, effectivement, il est dans une forme d'atemporalité, mais il est aussi dans cette radicalité de sa peinture, inscrit dans une certaine forme de modernité.
Bon, la bonne nouvelle, c'est que cette exposition dure jusqu'au 22 juillet. Donc on va pouvoir aller s'évanouir un certain nombre de fois. Et pour celles et ceux qui passeront par Paris, aller au musée Jacquemart-André, voir cette exposition Hammershøi, le maître de la peinture danoise, dont vous avez fort bien parlé. Le catalogue, achetez-le, faites-vous le offrir. Et, là aussi, si votre anniversaire est de maintenant jusqu'au 22 juillet, bon, c'est une occasion, sinon vous en trouverez d'autres. Il est édité par Culture Espace et Fonds Mercator. À suivre dans la dispute, une petite virée à Roubaix et dans sa piscine même, pour parler du printemps algérien. Il y aura un coup de cœur et puis il y aura aussi un petit salon.
La dispute, France Culture. Arne Laporte.
Suite de cette dispute consacrée ce soir aux arts plastiques, un cycle d'expositions regroupé sous le titre Printemps algérien. Sans rapport avec l'actualité, mais comme un joli clin d'œil, a lieu en ce moment à la piscine de Roubaix. Parmi les quatre expositions présentées, nos disputeurs ont choisi de s'intéresser ce soir plus particulièrement à celle qui est de toute façon quand même centrale, celle consacrée à Gustave Guillaumet, peintre français né en 1840, mort en 1887, qui vient au moment où il obtient le second prix de Rome, qui a l'occasion d'aller en Algérie pour la première fois. C'était pour lui donc en 1862. Il y attrape la malaria et passe 3 mois à l'hôpital militaire de Biskra. Mais il est pas, ça n'empêche pas de tomber amoureux du pays. Il va y retourner 9 fois. Marie Gatteron, Alice Massé, Alain Liénard et Annick Notaire sont les commissaires de cette rétrospective. La première consacrée à l'artiste. Alors là, depuis 1889, donc je pense qu'aucun ou aucune d'entre nous ne l'avait vu. À Roubaix, on peut voir une centaine d'œuvres de Guillaumet. Gustave Guillaumet, dont j'ignorais tout, dont je sais peu de choses, parce que moi j'ai pas pu, hélas, aller à Roubaix, mais j'ai quand même évidemment regardé de qui il s'agissait, mais je vais en savoir plus grâce à vous, et en commençant par Corinne Rondeau.
Ah, alors je vais vous montrer.
Oui, montrez-moi Corinne.
Alors oui, c'est vraiment une découverte, même si on connaissait un grand tableau de lui, le désert, le Sahara, le désert, ce premier plan avec... une carcasse, enfin un squelette hein, de chameau, et au fond, voilà, c'est vraiment un tableau qu'on a dans la tête, même si on, dans la mémoire, même si on ne sait pas en fait que c'est lui, c'est Gustave. Je l'appelle Gégé, Gustave Guillaumet. Alors, cette exposition est très intéressante d'abord parce qu'elle a la simplicité d'être chronologique. Et qu'elle nous
mais que
dit
parfois
aussi,
c'est bien aussi.
Et non, mais c'est formidable. Moi, j'adore les expositions chronologiques parce que on a un parcours temporel et on peut recroiser avec, je dirais, sérénité un certain nombre de motifs et aussi de déclinaisons ou de redistributions ou de disparitions. Donc, je trouve ça très intéressant, d'autant que le type est pas très connu, quoi. Mmh. Donc, on voit un tableau de Fromentin qui est un peu le précurseur de cette, de ce type de représentation, on va dire, qui est pas vraiment, pour le coup, orientaliste. Mmh. Donc, Guillaumet n'est pas un peintre orientaliste.
Non, c'est
pas
dans le glamour,
tout
hein.
Sauf un peintre orientaliste. D'abord, l'Orient, c'est pas l'est, enfin, et l'Algérie, c'est le Sud. Donc, on va dire qu'entre l'observation de ce peintre, qui est vraiment quelqu'un de très observateur, mais qui va aussi vivre le désert, mais aussi l'Algérie et les villes, les espaces citadins, avec l'armée, parce que c'est aussi ça, c'est-à-dire l'armée d'Afrique, où il va se passer un certain nombre de choses qui sont quand même assez atroces, puisqu'on va se situer entre la répression et les révoltes. Donc, évidemment, c'est un peintre qui va avoir... Moi, je appelle le peintre reporter. C'est comme un photoreporter, mais il est là pour saisir au début de sa carrière des événements à travers voilà, ce désir d'aller vers cette lumière, cette grande lumière. D'ailleurs, c'est toujours, un challenge de pouvoir mettre cette lumière intense dans un cadre, même si ça peut être de grands formats, mais il y a aussi de tout petits formats, et donc je dois dire qu'il a à la fois quelque chose au départ de vibrionnant comme un Delacroix, il fait partie de l'académie on va dire, mais il a aussi peu à peu un style plutôt qu'une facture, on va dire, à lui. Alors, ce qui est très surprenant, c'est effectivement cette manière dont sa vie va basculer par le biais des salons où il va exposer en 1869 la famine en Algérie, qui est le tableau qui vous fout directement une grande gifle au niveau du regard. Et c'est pour ça que je l'appelle le peintre reporter. C'est une scène de famine, puisque on va dire que la colonisation pourvoit, en fait, à cette famine. Et donc, dans une rue... de je ne sais plus quelle région en Algérie, les gens sont soit morts, soit agonisants, cherchant un pain. Et vous avez là une invention de peintre, sans doute, une petite lucarne qui tend, il y a une main qui passe, avec une grande élégance, un bracelet de perles, une bague, qui tient une miche de pain. Et donc vous avez des Algériens qui cherchent à attraper cette miche de pain dans la pénombre d'une arcade parce que vous avez une perspective au fond. Donc ce tableau est très mal vécu, on va dire, par les Parisiens, alors que par ailleurs, dans la même salle, on a le tableau qui enchante finalement la critique et les spectateurs au salon de 1869, c'est le labour frontière du Maroc, à savoir des Marocains au travail, des paysans qui labourent le sol. Et vous avez un ciel très chargé et au fond une perspective, la frontière du Maroc. On se dit, ah, la conquête, c'est vers la lumière, allons-y. Pendant ce temps-là, les paysans algériens continueront le sillon. Et donc il y a un millet, à la fois c'est un millet de l'époque, mais en Algérie. Et donc il commence comme ça.
Salut, bonne. Corinne Rondeau parlait du style Guillaumet. Comment est-ce qu'on pourrait le définir, ce style? Quelles sont les caractéristiques pour vous de ce peintre?
Alors déjà, première chose, c'est sans doute la singularité de l'exposition, c'est de montrer un artiste qui sort des canons historiques, justement de l'orientalisme, de l'exotisme, d'aller effectivement vers l'Orient, et qui à ce moment-là est quand même une forme de peinture un peu prise dans la propagande colonialiste. Donc c'est une des puisque l'exposition elle est divisée en trois parties, une première qui est très historique, c'est-à-dire Guillaumet arrive en Algérie. D'ailleurs, il arrive, l'histoire est un peu drôle parce qu'il n'avait pas du tout prévu d'aller en Algérie. Il se trouve qu'il est pris dans une tempête à Marseille et qu'au lieu d'aller en Italie comme il avait prévu, il se retrouve à partir pour Alger. Donc c'est la découverte d'un pays et il découvre à la fois effectivement cette lumière et puis la situation en fait du pays telle qu'elle se trouve dans ces années 1860 et quelques. Il cherche à en rendre non pas effectivement l'exotisme mais la réalité, hein, et cette réalité c'est un geste qui serait, on pourrait dire, puisque c'était la question, quasi naturaliste en fait, et dans une volonté quand même de saisir la réalité du pays, donc à la fois la réalité physique des hommes qui l'habitent, la réalité de cette lumière qui est effectivement très forte, la réalité du désert qu'il tente dans un travail qui tire parfois vers une forme d'abstraction. Le tableau dont parlait Corinne, effectivement, très fort, un peu plus connu que les autres. Bien que je le connaissais pas, mais on a une espèce de grande étendue désertique avec au premier plan ce squelette d'animal qui rend compte aussi en fait de l'état du pays, c'est-à-dire que dans cette recherche d'une manifestation du paysage, au fond, il montre la réalité des habitants, c'est-à-dire ils vivent dans une famine qui est celle de l'Algérie dans les années 1868 et 1869. Donc on a une première partie très historique qui correspond à cet attrait vers le désert, une seconde partie de l'exposition qui est une vision ethnographique, puisqu'on l'a appelé le peintre ethnographe, justement, qui rend compte aussi des intérieurs, alors pas du tout les mêmes intérieurs qu'à Merchoy, mais des intérieurs aussi des gestes quotidiens, parce qu'il s'intéresse aux laveuses, aux tisseuses.
Il documente.
Et puis, une troisième partie de l'exposition qui porte sur ce qui sont les œuvres de la maturité, où il cherche à capter. Il va, en fait, de plus en plus loin, en fait, dans le territoire algérien, en essayant d'attraper cette lumière et d'en rendre compte.
Stéphane Coréard, qu'on n'a pas encore entendu sur GG, Gustave Guillaumet.
Alors, déjà, je voudrais dire quand même deux mots du contexte de l'exposition, parce que c'est très intéressant et très éclairant. D'abord, c'est un petit maître, et ça n'a rien de péjoratif dans ma bouche, puisque moi j'ai été élevé avec les livres de Claude Chour sur les petits maîtres, et c'est des petits maîtres qui parfois sont passionnants, c'est un peu des franges de l'histoire de l'art, mais que heureusement, notamment dans la peinture plus ancienne, on peut voir, alors que finalement des petits maîtres plus modernes ou contemporains, peut-être qu'on les voit pas. Et là, effectivement, c'est la première exposition de Guillaumet, vous l'avez dit, depuis 130 ans, et c'est donc passionnant de découvrir pour nous cette œuvre dans sa complexité. Et c'est pas dans n'importe quel cadre, c'est à la piscine, à Roubaix, dans le cadre d'une saison algérienne qui a été programmée de manière très claire, très assumée, parce que c'est une ville qui est une des villes de France où la population d'origine étrangère est majoritaire, qu'elle a été souvent décrite de manière caricaturale comme un petit peu une ville majoritairement musulmane, mais qu'il est vrai qu'il y a une grande population algérienne ou d'origine algérienne qui habite à Roubaix, et que ce musée fait quand même partie des musées qui est très profondément ancré dans son territoire. Et je dois dire que quand on l'a visité un jour de semaine, il était absolument rempli de monde dans toutes les salles, et ça c'est quand même merveilleux, et des gens de toutes origines sociales, de tout âge, et ça je trouve que c'est très très remarquable, et il faut le dire, et que cette exposition et ces expositions, parce qu'effectivement plusieurs expositions autour de cette saison algérienne, composent un paysage complexe qui n'est pas simplificateur, et c'est le cas effectivement aussi de Guillaumet, qui en est un peu l'incarnation et le symbole, parce que c'est un équilibriste, je dirais, c'est-à-dire que c'est un petit maître. Pourquoi c'est un petit maître? Parce que justement la radicalité qu'on trouve par exemple dans le Sahara, le désert, qui est un tableau effectivement très saisissant, aussi bien en termes de sujet, puisqu'il y a juste finalement un immense tableau avec au centre cette petite carcasse de chameau, et puis au bout une caravane qui passe, on ne sait pas si elle vient vers la carcasse ou si elle s'éloigne, mais en même temps les camaïeux de très arides du sol, et puis la lumière qui épouse presque la voûte céleste, comme ça, une lumière crépusculaire, c'est très très étrange comme tableau, mais il n'est pas du tout toujours aussi radical, il est parfois effectivement beaucoup plus académique, on peut le dire, mais c'est vrai qu'il est dans cette position d'équilibre aussi dans ses sujets, c'est-à-dire que effectivement il est allé 10 fois en Algérie, il a un amour profond pour ce pays découvert par hasard, comme l'a dit Sally. Il ne dessine et peint que des autochtones, absolument pas l'armée qui l'accompagne, etc. Et il témoigne effectivement, ça c'est le fil rouge, je dirais, fil conducteur, toujours de son intérêt profond pour les modes de vie et les difficultés. On voit qu'il y a une réelle empathie, donc on l'a dit à travers les scènes d'agriculture, les scènes de travail des femmes aussi, qui sont très souvent documentées. Et puis de manière quand même marquée, mais pas non plus trop scandaleuse, l'oppression, les conséquences de la colonisation. On l'a dit, ce tableau, la famine, dont il faut signaler qu'il a été retrouvé récemment, restauré pour l'exposition. Et en fait, il a été offert par la veuve de l'artiste à l'Algérie. Il était roulé et en très mauvais état. D'ailleurs, dans le catalogue, il est photographié en mauvais état, mais il est très bien restauré sur place. Et c'est vrai que c'est un tableau qui est à la fois terrible sur ce que ça montre des conditions d'existence des Algériens, et en même temps assez ambigu dans le rapport peut-être à la colonisation. Il y a un tableau qui est encore plus frappant, je trouve, de ce point de vue-là, c'est la radia. Il est témoin dans son premier séjour d'une radia. La radia, c'était quoi? C'était quand les troupes d'occupants allaient se ravitailler en volant, finalement, ce dont ils avaient besoin. Et dans le catalogue, on voit que le général qui commande la division d'Oran, qui est responsable de cette radia, écrit qu'ils ont tout pris, leurs troupeaux, leurs tentes, 400 de leurs femmes sont entre nos mains, disent-ils, près de 500 combattants ont succombé, le succès est considérable, dit le général, l'effet moral immense. Bah, pas chez Guillaumet, en tout cas, qui lui peint ce tableau où on voit qu'il est réellement du côté des victimes, une profonde empathie pour les indigènes. Et d'ailleurs, ce tableau ne sera exposé qu'après sa mort.
Ça les bonnes, encore
oui,
un mot.
Profonde empathie qu'on trouve effectivement, parce que c'est très intéressant à travers toute l'exposition chronologique et c'est l'intérêt, on suit aussi la situation de l'Algérie et de l'Algérie française. Donc il y a ce rapport à la réalité du pays et la réalité historique, et puis progressivement, et on voit que ce regard empathique est au fond, et la qualité d'observation en fait du peintre rend compte d'une Algérie qui serait pas une Algérie rêvée et fantasmée et exotique, mais au contraire une Algérie aimée aussi pour ses couleurs, sa lumière, sa terre. Et la deuxième et la troisième partie de l'exposition, on voit une série de tableaux où on a l'impression que donc Gustave Guillaumet se s'assied en fait au sol. Il a un rapport au sol qui est très prégnant, ce sol qui est rouge, cette terre et cette lumière là, et cette lumière qui baisse parce qu'il y a souvent des visions crépusculaires comme ça, rend compte en fait d'une manière de se placer au sol et de s'asseoir aussi avec les habitants ou avec les nomades.
Corinne Rondeau, encore un mot sur cette exposition du printemps algérien.
Oui, alors, ce mot d'empathie, moi, me gêne un peu. Je peux le comprendre. Il y a pas. Mais quand on voit la razzia, c'est vraiment à la fois l'exaltation romantique de la bataille, un cheval, ça fait penser à du Delacroix. Et de l'autre, vous avez des femmes, beaucoup de femmes, qui tentent de s'opposer ou en tout cas qui sont là, un cadavre au pied. Donc vous avez de l'expressionnisme du massacré. Et le "et", il est tout le temps dans le travail de Guillaumet. Entre la dissidence et la répression, il a l'œil et l'observation sur ce qu'est la pacification. Je veux dire, c'est pas ça pacifier du tout. Enfin, je veux dire, c'est violent. Mais la violence, évidemment, la radicalité dont on parlait avec Stéphane tout à l'heure, là, il ne va pas au bout de cette radicalité. Et la pacification tombe aussi dans l'œil de ce peintre qui n'a besoin de rien d'ailleurs pour vivre, puisqu'il a une fortune, tout va bien. Et donc, il y a un dernier tableau qui est assez beau de Lagouatte de 79, et on voit bien qu'il invente quelque chose, il est dans la construction perspectiviste du contraste et d'un minaret qui est une ombre voilée qu'il invente dans l'espace ethnographique, mais qui ne l'est pas.
Dernier mot de Stéphane Correa sur cette exposition.
C'est un vrai dernier mot. Si parfois dans les grandes compositions, ça peut être un peu figé parce qu'on voit qu'il se sert beaucoup de ses croquis faits sur place, etc. et que ça manque parfois un petit peu de vie. En revanche, c'est un magnifique dessinateur. Dans la salle de la famine, il y a deux grands dessins qui en plus sont, je trouve, très innovants au point de vue de leur technique puisqu'ils mélangent le fusain, la sanguine et des rehauts de blanc qui sont absolument magnifiques. Il ne faut pas les rater quand on ira voir l'exposition.
Le printemps algérien, c'était la piscine de Roubaix jusqu'au 2 juin. Il y a bien sûr l'exposition L'Algérie de Gustave Guillaumet. Il y a aussi l'hommage à Claude de Vicente. Il y a Naïmé Merabet, Fenêtre sur l'Algérie. Et Abdelkader, l'émir de la résistance. Peut-être que ça est là, d'ici le 2 juin, vous aurez envie de nous donner quelques images aussi des autres expositions à la piscine de Roubaix. Et puis donc, cette exposition Guillaumet a donné naissance au catalogue publié aux éditions Gourcuff Gradenigo. C'est l'heure du coup de cœur de Sally Bonne pour Exposition Geste. De quoi s'agit-il, Sally ?
Alors, l'Exposition Geste, c'est donc au CNAI, le Centre National Édition Art Image, qui se trouve à Pantin, au Magasin Généraux. Et cette exposition porte sur la question de l'enregistrement des gestes et s'intéresse aux nouveaux outils, aux pratiques digitales, dans la manière dont, dans la mesure où elles affectent nos comportements. Et donc, comment, au fond, les outils techniques vont transformer aussi notre rapport au monde. Alors, l'exposition confronte deux points de vue, à la fois le geste dans son rapport à la notation et à la danse, mais aussi le geste digital et numérique. Et dans cette confrontation-là, on a deux deux voies quasi historiques. D'une part, des œuvres qui ont été produites pour l'exposition par quatre artistes, donc des œuvres nouvelles de Tal Isaac Haddad, Matan Midvor, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, Julien Prévieux et Cali Spooner. Et on a parallèlement des œuvres plus anciennes ou existantes qui sont appelées des œuvres Pungtung par les deux commissaires d'exposition, Audrey Illouz et Sylvie Boulanger, qui sont des œuvres de Molinagi et plus près de nous, Vito Acconci, Anthony Moutin, Tadas, Oued Guyon, j'en oublie. En fait, l'exposition part d'un exemple historique qui est un tableau qui a été commandé par téléphone. Enfin, c'est une commande de tableau par téléphone par Molinagi en 1922. Et donc, c'est partant de là la volonté d'explorer la question de la délégation du geste à travers la machine et comment, finalement, cette délégation a transformé les pratiques artistiques. Mais dans la période actuelle, et c'est notamment les œuvres très récentes qui sont montrées, et je pense notamment à une œuvre de Julien Prévieux, il s'agit de montrer comment finalement il y a un effet de retour en fait de ces gestes qui ont été transformés par la machine ou en allant vers la machine et qui nous reviennent et qui transforment aussi peut-être nos expériences sensorielles. Donc il y a une œuvre de Prévieux qui était déjà produite, qui est une œuvre de 2018 où on voit ce geste qu'on fait maintenant quasiment tous, c'est-à-dire qui s'appelle pinch to zoom, hein, qui est de cette on agrandit en fait sur une tablette ou sur un téléphone une image, et ce geste là en fait permet d'explorer la manière dont finalement ce geste il a été inventé. D'ailleurs il est même répertorié, ça c'est une des choses qu'on apprend dans l'exposition, et au fond c'est la question de l'apprentissage est très présente aussi dans l'exposition. Le film produit par Julien Prévieux pour cette exposition porte effectivement sur cet effet de retour du geste vers la machine et retour vers nous, mais c'est surtout une œuvre particulière qui est une performance que je voudrais évoquer, et je finirai avec ça rapidement, mais qui est très manifeste. Et alors là je le dis parce que elle n'est visible, ou en tout cas expérimentable, que le week-end. Donc c'est à savoir, et c'est entre 15h et 17h, et là c'est une œuvre de Tal Isaac Haddad qui s'appelle Through You, et on se retrouve dans une pièce entourée de deux chanteurs qui chantent des airs d'opéra. En l'occurrence, moi j'ai entendu le duo final de Le couronnement de Poppée, et qui le chantent jusqu'à le murmurer dans notre oreille, mais tellement près qu'on entend le souffle, enfin qu'on sent le souffle des chanteurs. Et au fond, ce geste-là de l'artiste part de ce qu'on appelle la pratique ASMR, que je ne connaissais pas, mais qui se trouve sur YouTube, qui s'appelle Autonomous Sensory Meridian Response, réponse automatique des méridiens sensoriels, qui est en fait une pratique de relaxation. Mais ce qui est intéressant, c'est ce jeu comme ça de retour en fait par la pratique de l'écran vers des pratiques qui sont là très fortes, parce que la performance est vraiment assez impressionnante.
Il n'y a plus qu'un week-end pour vivre cette expérience dont vous venez de parler, Sally, puisque l'exposition Geste se termine le 31 mars au CNAI. Deux week-ends, vous aurez rectifié de vous-même chez vous. Alors, on a ouvert le petit salon, et les portes du petit salon, avec une question que vous me posez, Lucille, mais je connais la réponse. Quelle est exactement la mission d'un FRAC, ma chère Lucille ? Vous êtes tous visités.
Ouais, le 8 mars dernier, c'est pas mon cas, hein, je le dis tout de suite, comme ça, c'est clair. Le 8 mars dernier, en plein centre-ville de Caen, a été inauguré le nouveau Fonds Régional d'Art Contemporain Normand, dans un ancien couvent entièrement rénové par Rudy Ricciotti. À cette occasion, il a été rappelé, je cite le communiqué de presse issu par sa direction, qu'issu de la décentralisation culturelle des années 80 et financée par l'État et les régions, les FRAC sont aujourd'hui des modèles de diffusion de l'art contemporain et d'ancrage territorial. Tout l'enjeu du devenir des FRAC tient dans ce syntagme apparemment oxymorique, ancrage et diffusion. Car lors de leur création en 82, à l'initiative du ministère de la Culture, les FRAC étaient moins conçus comme des lieux que comme des institutions compétentes à l'échelle locale pour acquérir des œuvres, les conserver et les faire circuler dans des infrastructures régionales non dédiées, dans l'espace public, dans les écoles, dans les bibliothèques, etc. On peut imaginer qu'étant donné les efforts financiers et la stratégie d'aménagement de ce couvent Canet, qui a l'air magnifique, soit dit en passant, le FRAC normand devienne pour le coup un lieu d'exposition. Ce n'est d'ailleurs pas le premier. Ces dernières années, un certain nombre de fonds régionaux d'art contemporain ont déménagé dans des lieux adaptés aux visites, qu'ils soient des lieux de patrimoine, comme dans le cas de Caen, ou des abattoirs à Toulouse, ou dans des locaux flambant neufs, comme à Marseille, à quelques pas de la Joliette, en 2013. Quand on voit ce bâtiment qui a été conçu par l'architecte Kengo Kuma, quand on entre dans son hall, il y a une billetterie, on accède à des expositions dans de vastes salles, on peut même boire un petit café dans le bar qui l'accueille, on ne voit pas du tout, en tout cas pas moi, hein, la différence entre un fonds et un musée. C'est ce qu'on appelle les fracs de nouvelle génération qui entendent devenir de vrais lieux d'ancrage pour le coup. À Toulouse, le frac a même fusionné avec le musée d'art moderne et contemporain. Et quand on parle aujourd'hui des abattoirs, par exemple quand on regarde leur site internet, on a aucune idée de la distinction au départ fondamentale qui existait entre les deux. Alors peut-être qu'on peut dire tant mieux pour les fracs qui acquièrent davantage de visibilité, c'est le cas à Caen, sauf que depuis quelques années, le budget qu'elles peuvent consacrer à l'acquisition de nouvelles œuvres décroît largement. Pour faire très simple, on dépense des millions pour ouvrir des lieux propres à montrer des œuvres, mais des œuvres, on en achète de moins en moins. Alors les fracs sont-elles guettées par un processus de patrimonialisation et surtout, est-ce que c'est grave ?
Est-ce que c'est grave? Ils vont bientôt sur leurs 30 ans. Sont-ils, hein? Je dirais, sont-ils, moi, les fracs? Mais vous faites comme vous voulez. Lucille Comeau. Tiens, Sally Bone va répondre à cette question. Alors... et vous régler l'affaire tout de suite.
On règle le problème immédiatement. C'est sans doute un petit peu compliqué. Alors effectivement, l'ouverture des fracs, c'était cette question de la diffusion et de l'acquisition qui s'est professionnalisée progressivement avec le temps. Le rapport au bâtiment, au bâti, qui se développe de plus en plus. Vous en avez cité quelques-uns, mais il y en a d'autres. Je pense notamment aux fracs Grand Large à Dunkerque avec les architectes Lacaton Vassage.
Et à Rennes aussi.
À Rennes, c'était au Dildec. À Bordeaux, c'est Big, à Orléans, c'est Jacob et McFarlane. Donc, on a un certain nombre de musées qui se sont dotés en fait d'une vitrine, effectivement, et sans doute que lié aussi à la politique en fait d'achat qui s'intéresse en fait aussi de plus en plus à au montant des œuvres qui ont été achetées, à leur valorisation. Il semblerait qu'on ait perdu aussi une des missions essentielles des fracs, c'était de s'inscrire dans un territoire régional et de s'intéresser aux artistes qui étaient présents. Donc, effectivement, on tend vers la muséification au détriment de ce que devait être le frac. Alors, j'ai pas de réponse à apporter de manière définitive, mais je vois pas comment, en fait, en se dotant d'une telle patrimonialisation liée au bâtiment, on va pouvoir revenir en arrière vers une première mission qui était celle notamment de faire connaître les artistes régionaux, locaux, territoriaux.
Après, c'est vrai que c'est quand même pas encore 30 ans, c'est quelque chose de finalement assez jeune, hein, les fonds régionaux d'art contemporain, et qu'il y a peut-être aussi des erreurs initiales dont on paye aujourd'hui le prix. Quand on installe le frac Alsace à Célestat, pour pas le mettre à Strasbourg, quand on installe le frac, je sais pas comment ça s'appelait à l'époque, Pays de la Loire, à Carquefou plutôt qu'à Nantes, on se dit, ah bah, il n'y a pas de public qui vient. C'était le cas aussi pour le frac Bretagne qui était situé je ne sais plus où, mais il y a beaucoup de fracs qui étaient installés concrètement en périphérie des grandes villes quand ce n'était pas dans des paysages, dans des territoires plus ruraux, ce qui était une idée très belle, sauf que la réalité, c'était la fréquentation n'existait pas. Stéphane Coréard.
Alors d'abord, je suis désolé de vous reprendre pour vous dire que les fracs vont sur leurs 40 ans, Arnaud. Je suis désolé. Vous êtes vraiment fâché avec les maths. 83, le premier, je crois, historiquement.
Et
c'est important parce qu'effectivement, c'est une histoire très française. C'est-à-dire que il n'y avait pas de politique de l'art contemporain avant que Jack Lang accède au ministère de la Culture. Il y avait de l'art contemporain, néanmoins. Il y en avait dans quelques musées, à Grenoble, notamment.
Ou des lieux indépendants, le consortium à Dijon.
Voilà, des associations souvent légères qui ont créé des centres d'art, effectivement, à Villeurbanne, à Dijon. Mais globalement, très très peu. Il n'y avait surtout pas de maillage sur le territoire. Donc Jack Lang a demandé à Claude Mollard, qui était son premier responsable des arts plastiques, de remédier à cette situation avec des structures légères, qui pouvaient être mises en place rapidement, effectivement. Et sur la base aussi, puisque c'était la grande époque de la décentralisation de Gaston Defer, les plus âgés entre nous s'en rappelle, qui associe l'État et les régions. Et donc, effectivement, ces structures légères ont été créées, financées à moitié par la région et à moitié par l'État. Le principe était simple, la région amène une somme et l'État l'abonde, c'est-à-dire la double. En réalité, ces structures légères, effectivement, avaient finalement une très grande autonomie et elles ont dérivé tranquillement avec une très grande liberté et elles se sont transformées, un peu comme des monstres qui s'auto-engendrent et elles sont devenues, effectivement, elles ont échappé totalement à leur créateur. C'est-à-dire que, au départ, effectivement, pourquoi est-ce qu'elles étaient parfois à Carquefou, etc. L'idée n'était pas du tout de montrer forcément ce qu'on achetait dans ces murs. L'idée était Oui, mais ça veut dire quoi diffuser? Ça veut dire qu'en fait, que les interlocuteurs locaux, tous les gens qui appartiennent plus ou moins au service public, quel qu'il soit, les hôpitaux, les écoles, etc.,
pouvaient exposer dans le hall de l'école, voilà, de l'hôpital.
Exactement. En réalité, ces structures légères
et ça s'est fait quand même,
ont évolué, beaucoup. Bien sûr, et ça se fait d'ailleurs un petit peu, mais ces structures légères ont évolué au gré de leurs directeurs et de les volontés politiques et managérial, c'est-à-dire que par exemple, on parlait du Frac Centre, il s'est mis à collectionner uniquement des maquettes d'architecture. Mmh. Alors pourquoi est-ce que les habitants de la région centre n'ont le droit qu'à des maquettes d'architecture?
Oui. Voilà, le dessin de Picardie, pour Amiens, Picardie,
le dessin, etc. Mmh. Et puis chacun, il y en a qui avaient des grandes salles d'exposition, d'autres qui n'en avaient pas, etc. Chacun a fait un peu. Après, il y a eu des histoires chaotiques. Par exemple, le Frac Île-de-France, à un moment, n'a plus été financé par l'État qui ne suivait plus les orientations de la région. Idem pour l'Auvergne. Donc tout ça a été totalement anarchique. Alors effectivement, Sally Bonne a prononcé le terme qui fâche pour moi, c'est le terme professionnalisé. C'est-à-dire effectivement, ils se sont professionnalisés, mais parce que aussi depuis 82, en parallèle, se sont créés des musées d'art contemporain, se sont créés des centres d'art et qui parfois faisaient doublon. Et c'est pour ça qu'aussi de manière anarchique, certains fracs effectivement se sont mariés tant bien que mal avec un musée ou avec un centre d'art ou avec une école d'art au gré des spécificités régionales. Aujourd'hui, effectivement, le maintien simplement des collections est un poids considérable pour ces fracs, les réserves, la conservation, la restauration, etc. Et donc effectivement, ils ne peuvent plus acheter, et dans certains cas, ils ne peuvent même plus assurer, parce que comme le Journal des Arts le soulignait, la seule œuvre de Jeff Koons dans une collection publique, c'est au Frac Aquitaine, elle vaut plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions, et rien que la prime d'assurance dépasserait le budget du Frac.
Oui, parce qu'ils ne l'ont pas acheté à ce prix-là à l'époque. Corinne Rondeau.
Oui, mais après ça, il faut simplement rappeler quand même qu'un frac, c'est un outil régional. Et que cet outil n'a pas été utilisé, je pense, à bon escient, notamment parce qu'il y a beaucoup de directeurs de frac. Ça fait à peu près 1000 ans qu'ils sont le même directeur du frac. Non, mais est-ce que
oui,
vous pouvez...
d'un frac à l'autre,
non,
parfois.
Mais est-ce que vous pouvez demander à quelqu'un qui, pendant 10, 20, peut-être plus, tient sur ses épaules lui-même une mission publique? Il faut quand même arrêter de délirer avec ça. Donc, il n'y a pas qu'une prospective qui a été absente à la création des fracs. Il y a aussi qu'on a laissé, et moi, je trouve que l'idée d'un maillage avec quelque chose qui est à l'extérieur des grandes villes, c'était extrêmement intéressant.
Là.
Parce que c'était de là que partait... Donc, il faut réintégrer la question de l'outil ou changer le statut du frac. Et réintégrer l'outil régional, c'est ce qu'a fait, par exemple, le frac Caen, c'est-à-dire créer de l'atelier. Et c'est comme ça qu'ils ont soutenu Creuset, qui sortait de l'école des Beaux-Arts, qui était... Et donc, je pense que là, il y a une solution, mais effectivement, entre les le frac n'est pas là pour conserver. Il est là pour collectionner, mais à quelle limite quand on n'a pas de réserve, c'était le cas du début du frac, et diffuser. Donc, il diffuse mal, parce que quand on se met à acheter des œuvres à l'extérieur de la région, c'est juste pour se dire, on n'est pas des régionalistes, on est des blaireaux, quoi, grosso modo. Donc, on a l'impression aussi que cette situation de s'auto-juger pas au niveau du marché de l'art, c'est presque malsain. Alors qu'au contraire, c'est comment on renforce, parce que des gros noms ou des grands noms, on en a, et ça sert à quoi? Juste à se dire, les assurances sont trop chères. Donc c'est ridicule. Et par contre, il faut réinvestir effectivement là ou la mission publique du frac, ou alors de transformer le statut du frac pour qu'il aille vers une mission patrimoniale type musée. Ce que, effectivement, il y a des versions là que vous avez énoncées, Lucille, rappelons toujours que quand même on habite quelque part et que s'il y a des fracs, c'est pour qu'on habite là et que les gens qui habitent là, c'est pas des ploucs.
Mais du coup, quel serait l'intérêt, à l'inverse des fracs, justement, à se transformer? Parce que j'imagine qu'il y a un volontarisme. Alors, je ne sais pas s'il est du côté de la région, du côté, en effet, des directeurs de fracs. Mais c'est quoi leur intérêt à eux de privilégier, par exemple, l'acquisition d'un lieu ou la transformation d'un lieu plutôt que l'acquisition de nouvelles œuvres? Je veux dire, la tendance, elle vient d'où? Elle est politique? Elle est... Je me l'explique pas. Je n'arrive pas à comprendre d'où elle vient.
Il y a besoin pour les régions quand même que leur politique, quand elle existe, elle est souvent forte culturelle, soit visible dans les grands centres-villes. Et c'est aussi ce qui s'est passé pour tous ces nouveaux lieux de frac dont vous parlez, Lucille. Comme par hasard, ils sont dans les centres-villes. Il faut quand même qu'il y ait un effet de vitrine qui peut tout à fait se comprendre. C'est louable de mener une politique culturelle et que ça se voit. Mais du coup, ça... Non, vous n'êtes pas d'accord, Corinne Rondeau?
Si, je suis d'accord avec vous. Non, mais par exemple, Montpellier, Toulouse, l'Occitanie, ils fonctionnent de la même manière depuis qu'il y a une réunion. client. Et maintenant, on a maintenant un centre d'art multimédia qui va ouvrir ou qui a ouvert déjà, je sais plus, à Montpellier.
Bon,
donc là,
juin.
Si vous voulez, vous êtes les gens sont en train de se marcher sur les pieds parce que là, c'est quand même
c'est
un territoire
problème.
De pouvoir.
Ça, le changement des régions pour les fracs, c'est pas réglé.
Le changement des régions, ça pose un certain nombre de problèmes parce que quand il y a plusieurs fracs dans une même grande région maintenant,
pour toutes les directions administratives aussi, c'est un casse-tête.
Oui, mais la question est de savoir aussi lequel il faut garder. Et dans ces cas-là, c'est aussi ça qui a poussé vers une spécialisation des fracs. Est-ce que effectivement Amiens a les bandes dessinées, mais pas que. En fait, si on regarde sur le site plateforme, on voit que tous ou quasiment tous revendiquent une certaine
spécialité
en fait dans le champ d'art contemporain.
Mais qui, pour continuer ce que disait Corinne, était quand même le goût personnel du directeur ou la directrice qui était là depuis 10-15 ans. Allez, dernier mot, Stéphane.
Oui, on voit qu'avec la fusion des régions, ils ont fait le choix de ne pas fusionner les fracs, c'est-à-dire que chaque frac garde son directeur et garde son orientation. Je pense que l'avenir, à mon avis, si on regardait cette mission de service public, en dehors de l'ancrage local qui doit effectivement être très important, c'est-à-dire que le frac doit porter un regard aussi sur la création locale, je pense qu'effectivement le frac a vocation à être une artothèque puissance 2, c'est-à-dire à la fois un lieu de prêt, l'artothèque c'est une bibliothèque pour des œuvres d'art, donc ils sont prêtés que les gens emmènent chez eux, à la fois pour des structures publiques qui peuvent se servir, puiser dans ces réserves, mais aussi pour des particuliers, parce qu'il y a aussi beaucoup de villes et beaucoup de régions qui n'ont pas d'artothèque, ce qui est très dommage.
On referme, hélas, beaucoup trop vite, mais il y avait trop de sujets passionnants aujourd'hui. Les portes du petit salon. Et une petite annonce aussi avant le jeu de la dispute pour dire que vendredi, le 22 mars, il y a une journée spéciale sur notre antenne, une journée spéciale, le modèle noir, à l'occasion de l'ouverture de l'exposition Le modèle noir de Géricault à Matisse. C'est au musée d'Orsay à Paris avec de nombreuses émissions, depuis le réveil culturel, les matins de France Culture, la grande table, la fabrique de l'histoire, par les temps qui courent et puis aussi pendant le week-end, pas mal d'émissions consacrées à ce sujet du modèle noir et nous parlerons de l'exposition dans la dispute mercredi prochain, le 27 mars. Le jeu de la dispute. Joséphine Dumoulin nous a rejoint pour nous rappeler la question du jeu d'hier soir et nous donner sa réponse, Joséphine.
La question était: quelle technique cinématographique Lars von Trier a-t-il inventée pour le tournage de son film Le Directeur? Et la réponse était l'automavision.
Ce soir, des invitations à gagner pour un film qui est Sunset de Laszlo Nemes qui est sorti aujourd'hui dans les salles et dont on parle vendredi dans la dispute. La question, Joséphine:
quel documentariste, mort l'an dernier, a publiquement soutenu le fils de Saul de Laszlo Nemes?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, site sur lequel vous pouvez aussi réécouter ou vous abonner au podcast de nos émissions. On se retrouve demain à 19h pour une dispute consacrée à la littérature en compagnie de Raphaël Léris, Jean-Christophe Brianchon et Florent Georgesco. À notre sommaire, pas dupe d'Yves Ravet, audition de minuit, nous aurons été vivants de Laurence Tardieu chez Stock, deux sœurs de David Fuenquinos chez Gallimard et puis il y aura un hommage rendu par Florent Georgesco à Dominique Noguez.